D'abord, le texte de ce sixième dimanche après l'Épiphanie, l'Épître est tiré de saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous rendons constamment grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous sans cesse dans nos prières, nous rappelant devant Dieu notre Père l'œuvre de votre foi, les travaux de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères chéris de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint, une pleine conviction. Vous savez en effet ce que nous avons été parmi vous à cause de vous, et vous-même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler, car ce sont eux-mêmes qui racontent à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment Dieu vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que toutes les autres herbes et elle devient un arbre, de sorte que les habitants du ciel viennent habiter sur ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit ces choses au peuple en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Veuillez vous asseoir. D'abord, souhaitez à tous les bienvenus dans cette nouvelle chapelle. Je m'excuse pour le froid. Un petit problème avec la chaudière qui devrait être réglé rapidement. Je demande simplement aux gens qui m'écoutent sur Internet et qui viennent ici de temps en temps de me passer un petit coup de téléphone avant le samedi pour me dire qu'ils viennent. Comme ça, j'ai le temps de préparer la chapelle parce que j'ai une extension que je peux utiliser dans ce qui deviendra mon bureau pour pouvoir préparer. Je peux accepter encore 5 ou 6 personnes. Et donc, j'ai besoin de savoir un peu à l'avance pour avoir le temps de préparer un peu les choses dans mon bureau. N'oubliez pas également, ceux qui m'écoutent sur Internet, donc les retraites. J'ai placé sur le site Internet d'Anne Marie les dates de retraite pour 2022. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Vous avez enregistré. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, l'évangile de saint Matthieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples en parabole. Il ne disait pas les choses directement. Il donnait des exemples pour élever les gens à partir du moment où les gens n'avaient pas forcément tout compris. Puis il utilisait les paraboles pour élever les intelligences. Et pour nous, il faut justement faire la même chose. Donc on va passer par les pères de l'Église. Ce sont eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Vous savez que derrière le sens historique du texte que nous lisons, il y a un sens caché qu'on appelle le sens spirituel. Un sens, on appelle le sens allégorique, c'est-à-dire un passage de l'Ancien Testament représente ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Le sens moral, anthropologique, ça veut dire que ce que raconte notre Seigneur Jésus-Christ explique ce qu'on va devoir faire dans notre âme. Et enfin, le sens analogique, ça veut dire que un passage de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ explique ce qui se passera à la fin des temps. Alors là, je voudrais justement utiliser ces textes des pères de l'Église, parce que c'est très important pour un prêtre de bien se garder d'avoir une interprétation personnelle de l'Écriture sainte. Loin de nous l'interprétation personnelle. Le prêtre est un porte-voix en quelque sorte. Il doit donner aux fidèles ce qui appartient à l'Église, non pas ce qui vient de lui. C'est le problème avec tous les hérétiques. Commencez par le protestantisme, vouloir prêcher des choses nouvelles. Loin de nous l'amour des nouveautés, disait saint Pie X. Donc on reprend ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Et je voudrais vous montrer avec justement ce texte des deux paraboles du grain de sénévé d'une part et d'autre part de la mesure de levain qui est placée dans trois mesures de farine, ce que ça représente. En fait, vous allez voir, quand on suit les pères, c'est ce que j'ai fait pour préparer ce sermon, quand on va chercher chez les pères, on verra que ces deux paraboles représentent l'incarnation, la rédemption et le déploiement de l'Église. Ça ne semble pas évident. Quel est le rapport avec l'incarnation? L'incarnation, c'est quoi? L'union de la divinité et de l'humanité en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est représenté par cette femme qui place dans la farine une mesure de levain qui va faire lever toute la pâte. Et donc, le levain représente la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, la farine représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on place le levain dans l'humanité, c'est-à-dire lorsqu'on place la divinité dans l'humanité, la divinité va en quelque sorte sanctifier toute l'humanité. C'est ce qui s'est passé au mystère de l'incarnation. Donc, cette pâte représente aussi, au sens plus large, l'humanité générale de toute notre humanité à nous. Et plus d'une façon peut-être plus spéciale, les pères de l'Église expliquent que cette pâte dans laquelle la femme met le levain représente aussi la Sainte Vierge. Pourquoi? Peut-être la Sainte Vierge Marie, justement, a reçu dans son humanité la divinité par le mystère de l'incarnation le 25 mars. Et donc, c'est elle qui va donner l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ, qui va sanctifier cette humanité par sa divinité. Il y a encore bien d'autres choses à expliquer. Je voudrais vous donner simplement certaines choses. Donc, ces deux paraboles représentent aussi le mystère de la rédemption. Rédemption, c'est quoi? C'est la conséquence de l'incarnation. La rédemption, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ devient homme pour pouvoir mourir. En tant que Dieu, il ne peut pas mourir, Dieu est immortel. Et donc, il devient homme pour pouvoir souffrir dans sa passion. Vous allez me dire, mais en quoi ces deux paraboles peuvent-elles représenter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? Les pères de l'Église expliquent justement que là, c'est le grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est le grain de sénévé? C'est le grain de moutarde. On appelle la moutarde en français. Mais ça aussi, le sénévé. C'est la plus petite des graines du potager, de l'Évangile. Eh bien, cette graine de sénévé, si vous prenez vous croquez sous la dent un grain de sénévé, ça sent rien du tout. Il faut broyer la graine. Et plus on la broie, plus on l'écrase, on l'écrabouille, plus elle va donner sa saveur. Eh bien, c'est le symbole de la passion de notre Seigneur, disent les pères. Le symbole de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a été écrasé par l'agonie au jardin des Oliviers, par la flagellation, par le couronnement d'épines, par le portement de la croix, par la crucifixion. Et c'est l'écrasement de notre Seigneur Jésus-Christ qui va donner cette amertume, cette moutarde, qui va en quelque sorte permettre à notre Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Il nous sauve par sa passion. Donc, ce grain de sénévé qui est écrasé représente la passion de notre Seigneur. Deuxième idée, exprimée très bien par les pères, c'est que les anciens pensaient, je ne sais pas si c'est vrai sur le plan physique, les anciens pensaient qu'on pouvait détruire la puissance d'un poison avec des cataplasmes de moutarde. Lorsque dans l'ancien temps, quelqu'un était piqué par exemple par une vipère, on plaçait sur la blessure des cataplasmes de moutarde, parce que les anciens pensaient que la moutarde agissait comme un contrepoison. Et donc ces contrepoisons que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par sa rédemption. Contrepoison contre qui? Contrepoison évidemment contre le démon, contre la puissance du démon. Vous voyez, toutes ces choses-là ne sont pas absolument évidentes, donc il faut méditer un petit peu sur tout ça pour arriver à comprendre tout cela. Donc le contrepoison représente les conséquences de ce mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa venue sur la terre, son union avec notre humanité, par sa destruction, la destruction de sa passion, nous sauve par le mystère de sa rédemption, de la rédemption. Et donc, la graine de sénévé écrasée représente à la fois la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ce contrepoison que notre Seigneur Jésus-Christ provoque chez les hommes, en éliminant le poison du péché. Les pères de l'Église font aussi d'autres remarques. C'est très intéressant. Ils disent par exemple que la graine de Senevé est la plus petite des graines du potager. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il se présente au monde, humainement parlant, n'a aucune notoriété. Il va apparaître dans un tout petit pays, absolument inconnu sur les cartes, la Palestine. Il va venir dans le sein d'une jeune fille inconnue, d'un tout petit village, Nazareth. Il va, pourtant, cette femme, la très sainte Vierge Marie, membre de la tribu de David, une personne complètement inconnue. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, malgré cette petitesse humainement parlant qui est la sienne, va envahir le monde entier. Envahir le monde entier, c'est exactement ce qui va se se passer avec nous. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, justement, à partir de son humanité, va nous monter vers la divinité. Au début, on ne voit que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça semble une petite graine de rien du tout. Mais derrière cette petite graine de rien du tout, il y a la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, parfois c'est clair. Bon, on pourrait se demander, les gens nous posent souvent la question, mais pourquoi le bon Dieu ne fait pas un miracle? Pourquoi il ne fait pas ce qu'il a fait avec saint Paul, par exemple? Saint Paul qui n'a que haine contre l'Église, contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui essaye d'enchaîner tous les catholiques qu'il peut trouver à son époque. Et puis, un beau jour, le bon Dieu lui apparaît et lui dit, le précipite de son cheval, le rend aveugle, et du haut des cieux lui dit, « Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et les gens lui demandent, « Mais vous pourquoi le bon Dieu ne fait pas quelque chose comme ça? » Imaginez, en plein conseil des ministres, que le bon Dieu leur apparaisse, rende tout le monde aveugle, tout le monde paralysé, et dit, voilà, je suis Jésus que vous persécutez. Ce serait pas mal, ça. À ce moment-là, il y aurait la conversion de tout le monde. Pourquoi le bon Dieu ne fait pas quelque chose comme ça? Vous allez lui demander. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Autre point important, ces deux paraboles représentent aussi l'extension de l'Église. L'extension de l'Église. Pourquoi? Parce que cette pâte dans laquelle la femme va mêler une mesure de levain représente l'Église catholique. L'Église catholique qui va, après la divinisation provoquée par notre Seigneur Jésus-Christ dans cette Église, l'Église est divine, elle va se développer dans le monde entier. Et notre Seigneur Jésus-Christ va imprégner son Église pour que cette Église imprègne à son tour la société dans laquelle nous vivons, ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le début de l'histoire de notre Seigneur, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, va envoyer ses apôtres dans le monde entier pour imprégner de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ le monde païen dans lequel il vivait. C'était vrai autant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et ça, c'est bien représenté par ce levain qui va faire lever toute la pâte. Vous voyez comme ces choses prennent vie lorsqu'on explique justement, à partir des textes des pères de l'Église, on explique l'Évangile en prenant bien soin d'interpréter ces textes selon l'esprit de l'Église. Et cette graine de Senevé, c'est la même chose. Une toute petite graine, elle va devenir un arbre qui va déployer ses branches partout, telle façon que les oiseaux du ciel vont venir se percher sur ses branches et faire leur nid sur les branches. Ça représente quoi? C'est l'arbre de l'Église. C'est l'arbre apostolique de l'Église catholique qui va étendre ses rameaux partout dans le monde entier pour que les âmes puissent venir se réfugier sur ses branches. Et ça, c'est encore une fois quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. À condition, bien sûr, que les branches soient unies au tronc. Et par le tronc unies aux racines et à la sève que donne la grâce sanctifiante. Si une branche commence à se séparer du tronc, elle meurt. Parce qu'il n'y a plus la sève pour la nourrir. Vous voyez c'est comment les pères de l'Église expliquent très bien toutes ces choses-là. Et donc, les pères expliquent que cet arbre évangélique, ce qu'ils appellent l'arbre évangélique, qui pousse à partir de la graine de Senevé, représente tous les prédicateurs, tous les évêques, les papes, qui dans l'histoire de l'Église, justement, vont amener la vie spirituelle au monde. Et les oiseaux du ciel, c'est quoi ça? Les oiseaux du ciel qui viennent nicher sur les branches représentent justement les âmes, les vertus et les anges. Le père de l'Église fait remarquer que les anges ont des ailes, comme les oiseaux. Donc, c'est pour marquer leur agilité, leur subtilité, leur clarté. Ils sont des purs esprits. Et ces oiseaux du ciel donc, qui viennent se réfugier sur les branches représentent les âmes des catholiques qui vont pouvoir chercher refuge loin des oiseaux de proie du monde moderne pour pouvoir survivre dans le monde moderne. Et donc, chercher notre Seigneur. Et en fait, notre nid dans l'arbre. Pourquoi notre nid? Qu'est-ce que ça représente? Les pères de l'Église ont de très belles images en disant ce nid qui est construit par l'oiseau représente le lieu de repos devant le Saint-Sacrement. On est dans un monde complètement fou. Il y a des gens qui ne cherchent qu'à détruire la foi catholique, détruire la famille catholique, détruire toute influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venir construire notre nid sur l'arbre de l'Église catholique. Et donc savoir venir passer un temps devant le Saint-Sacrement, pour ceux qui habitent dans le coin, les bienvenus ici dans cette chapelle, malgré son humilité, sa petitesse, pour venir ici justement, pour venir refaire le plein en quelque sorte. Comme une voiture qui ne peut pas circuler sans qu'on fasse le plein à partir d'une station-service. Donc à chaque fois que vous venez à la messe ce dimanche, il faut refaire le plein, on vérifie tous les nouveaux, on fait le plein pour justement avoir cette force, après de continuer à se battre dans la vie moderne. Ça, je tiens absolument à ce que cette chapelle, malgré son humilité, devienne un peu comme une espèce de tour de protection pour que les soldats puissent venir se réfugier quand l'attaque se fait trop forte à l'extérieur. Donc les bienvenus ici. Et je voudrais vraiment que cette chapelle devienne un peu comme un lieu de rassemblement pour la famille catholique. Les catholiques du coin doivent pouvoir venir ici et retrouver la force, le repos dont ils ont besoin sur le plan spirituel pour arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette charité entre nous pour que quand les gens viennent ici, franchissent cette porte, vous laissez tous vos problèmes à l'extérieur. Ils ne vont pas s'envoler, rassurez-vous. Vous laissez toutes vos difficultés, tous vos problèmes personnels à l'extérieur pour venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir communié, vous êtes confessé, avoir communié, vous reprenez vos forces et lorsque vous sortirez de la chapelle, bien, vous serez comme un soldat qui a repris sa cuirasse. Et vos problèmes, ils seront toujours dehors, rassurez-vous, on ne va pas s'envoler avec le vent. Ils seront toujours là et vous aurez la force de les porter. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais aussi insister, encore une fois, on trouve tout ça chez les pères de l'Église. Et ces trois mesures de farine, qu'est-ce que ça représente? Mais les trois mesures de farine représentent la façon dont nous pouvons réagir à l'introduction de la grâce sanctifiante dans nos âmes. La grâce représente justement cette graine qui est plantée dans le champ. La graine de semer est placée dans un champ. Il faut que le champ soit préparé. Et en fonction de la préparation de ce champ, la graine va donner du 30%, du 60%, du 100%. Mais les trois mesures de farine représentent les trois réponse possible, soit 30%, soit 60%, soit 100%. Et n'oubliez pas que le bon Dieu qui dirige tout, le grand jardinier, s'il sait que votre graine doit rapporter 60%, il existe 60%, attention. Il ne va pas se contenter de 30% si vous pouvez donner 60%. Si vous êtes supposé donner 100%, il ne va pas se contenter de 60%. Vous voyez, comme les pères de l'Église donnent justement le sens mystique extrêmement important de toutes ces choses. Les pères font aussi remarquer que les trois mesures de farine représentent l'adoration de tout notre cœur, toute notre âme, de tout notre esprit. Cœur, âme, esprit, trois choses. Mais c'est représenté justement par les trois mesures de farine. Alors, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que nous devons nous aussi, si vous voulez, devenir les instruments de la divinité notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons en quelque sorte demander à notre Seigneur Jésus-Christ de venir s'incarner dans notre cœur. Nous devons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir participer à sa passion par les souffrances et devenir la bonne odeur du Christ. La moutarde a une bonne odeur spirituellement parlant, c'est un symbole spirituel, mais nous aussi nous devons avoir cette bonne odeur spirituellement et être la mesure de levain, la petite graine qui va être écrasée et qui va donner naissance à un arbre gigantesque sur lequel les oiseaux du ciel vont pouvoir venir se réfugier. Il faut que chacun d'entre nous, quel que soit le milieu dans lequel nous vivons, nous soyons ce grain de sénévé, nous soyons cette mesure de levain pour faire lever la pâte. Il ne s'agit pas simplement de se dire « moi j'ai la foi catholique, ça suffit ». Non, il faut faire lever la pâte. Il faut que l'arbre grandisse. Je n'ai pas simplement de se contenter d'être une petite graine de sénevé. Cette graine de sénevé, elle doit germer, elle doit donner un arbre. Et il faut que cet arbre étende ses rameaux dans le monde entier. C'est le rôle des catholiques. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son Église avec 12 personnes. Les 12 apôtres, il y avait les disciples aussi, 70 disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont partis à la conquête du monde. Ils ont coûté cher d'ailleurs, la plupart sont morts martyrs. Vous voyez, donc il faut avoir cette force. Et cette force, vous n'allez pas la trouver dans la nature. La force, elle se prend où? D'où vient cette force du catholique? La force du catholique, elle se prend au Saint-Sacrement de l'autel. Voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans une église catholique, dans l'église catholique, au centre de tous les regards, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tabernacle qui contient les espèces eucharistiques, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous rentrez dans une église de Vatican II, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Le micro, c'est l'homme. On vient pour adorer l'homme, transformer l'homme en Dieu, mais pas du tout. Le centre, c'est pas la belle affiche. Le centre, c'est le très saint sacrement. Le prêtre, c'est celui qui a la clé du saint sacrement. Le prêtre, c'est celui qui a la clé du garde-manger de nos âmes, comme disait Saint Curé d'Ars. Donc il ouvre les portes du garde-manger pour pouvoir nourrir les âmes. Mais il ne donne pas une nourriture qui vient de lui. Il donne une nourriture. La nourriture divine. La nourriture divine, c'est quoi? C'est la grâce sanctifiante ou l'augmentation de la grâce sanctifiante dans nos âmes. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses-là, d'avoir suffisamment d'humilité pour s'humilier derrière l'enseignement de l'Église. J'ai toujours souffert, quand j'étais gamin, de voir la nullité des sermons ou des catéchismes donnés par les prêtres, parce qu'on sentait qu'ils n'avaient pas du tout cet amour du bon Dieu. Je rappelle mes cours de catéchisme quand j'avais 10-12 ans, mais on faisait des petits dessins, on faisait du n'importe quoi, alors que les prêtres auraient dû justement nous donner non pas quelque chose qui vienne d'eux, mais quelque chose qui vienne des pères de l'Église, alors qu'ils ont donné ce qui venait d'eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils ont absolument tout détruit. Et pourtant, c'était encore avant la nouvelle messe, et on partait avant Vatican II. Vous voyez donc, comme il est important de s'imprégner de ces choses-là, ne pas chercher pour le prêtre à donner quelque chose qui vient de lui, mais donner le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut parce que personne ne peut être sauvé sans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors passons bien sûr. Pour comprendre toutes ces choses-là, passons par la Très Sainte Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie, justement, elle a participé de façon directe à l'incarnation d'abord, évidemment, puisque c'est dans son âme, dans son cœur, dans son sein très pur, que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu descendre. Il est allé choisir une petite jeune fille, humainement parlant, de rien du tout, un petit village de rien du tout, d'un petit pays de rien du tout, et il a voulu s'incarner là. S'incarner là. Et la Très Sainte Vierge Marie a aussi un rôle énorme avec le mystère de la rédemption. C'est elle qu'on trouve au pied de la croix. Les apôtres sont tous volatilisés, sauf Saint Jean qui est là, mais elle est là au pied de la croix, elle se tient debout. Ce que nous aussi nous devons faire. Venir chercher les forces dont nous avons besoin devant notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que par lui tout a été fait, rien ne peut être fait en dehors de lui. Donc passez par la Très Sainte Vierge Marie. Priez votre chapelet tous les jours, surtout quand on a des difficultés, des tentations, des moments d'égarement, des moments de froideur, ce qui nous arrive tous, quand on a le cœur tiède comme les disciples d'Emmaüs, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Allez chercher la Très Sainte Vierge Marie. Recherchez la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous donne toutes les grâces, qu'elle obtienne pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Voilà ce que nous demanderons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.